Je vous propose deux temps d'approche. Un premier temps où on va aborder effectivement le marché, le monde des seniors et la volumétrie qui pourrait nous toucher demain en matière de seniors. Et dans un deuxième temps, nous aborderons la spécificité du viager mutualisé tel qu'il a été conçu et tel qu'il est aujourd'hui développé avec des institutionnels. Alors, sans reprendre l'ensemble des transparents qui vont circuler devant vous, force est de constater effectivement qu'on va vers une augmentation considérable de demain de la population des seniors. C'est pas un secret pour vous si vous êtes là aujourd'hui, c'est une évidence même. C'est vrai qu'on va, rien qu'à l'horizon 2050, alors je prends souvent l'horizon 2050 parce que en termes de gestion patrimoniale, ça commence à être déjà quelque chose de significatif dans les chiffres que nous avons nous. Alors, effectivement, rien qu'à l'horizon 2050, on est sur une augmentation de pratiquement plus de 30% des seniors, et avec toutes les problématiques que l'on va voir derrière, notamment en termes de propriété ou en termes de logement. C'est vrai que l'allongement de la durée de la vie, tel que figure aussi sur ce slide, amène un certain nombre de conséquences en matière de besoins et en matière de santé. Conséquences en matière de besoins et conséquences aussi en matière de place dans les EHPAD. Il nous apparaît clairement aujourd'hui que la réponse en matière d'EHPAD, même si c'est une réponse clairement identifiée, ne sera pas à la volumétrie du nombre de personnes âgées auxquelles on va être confronté. Ça peut aussi nous amener, mais ça peut être un débat entre nous tout à l'heure, à concevoir effectivement que les EHPAD seraient demain destiné à couvrir les besoins du très fort vieillissement, y compris le vieillissement en matière de besoins de santé et de besoins de soins extrêmement forts, mais dans l'attente, je dirais, de ces besoins exprimés en matière de santé très forts, eh bien entre le moment de la retraite, les 60 ans, et l'entrée en maison de retraite, il peut se passer pratiquement 20 ans, 25 ans. Il faut se souvenir quand même rapidement que historiquement, on rentrait en maison de retraite dans les années, il y a moins de 50 ans, il y a même moins de 30 ans, on rentrait en maison de retraite, comme on disait l'expression, je rentre en maison de retraite, mais on rentrait en maison de retraite pour une durée qui excédait souvent 10 ans, et on avait des maisons de retraite qui étaient pour une grande partie pas médicalisées. On s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, en EHPAD, fortement médicalisé, la durée de vie moyenne en EHPAD, elle est plutôt de 18-24 mois que des durées qui sont très longues. Donc, force est de constater qu'on est dans une situation où, à l'entrée en retraite, jusqu'à quelque chose qu'on peut estimer 80 et quelques années, l'idée n'est pas de mettre un butoir, mais de dire quand la situation de vie à domicile n'est plus possible, la maison de retraite peut intervenir. Dans l'espace-temps entre les deux, eh bien effectivement ça peut être 20 ans, et quelles sont les solutions dans les 20 ans? Et dans ces 20 ans, effectivement, il y a bien différentes solutions qui peuvent être le maintien à domicile avec des services à la personne, qui peuvent être aussi les résidences-services non médicalisées. Il y a toute une offre et tout un panorama qui peut s'offrir, et on va regarder parmi le panorama tout à l'heure de celui qui est le maintien à domicile avec ses conséquences. Alors si on regarde maintenant la situation des retraités, eh bien les retraités sont aujourd'hui dans une situation où beaucoup possèdent un très fort patrimoine immobilier. On a tendance à dire de manière générale que 15% des retraités ont plutôt beaucoup de patrimoine, 15% n'en ont pratiquement pas du tout et seraient plutôt, si on dit, des plutôt riches ou des plutôt pauvres, excusez l'expression pour appuyer un raccourci, mais on a un ventre au milieu de près de 70% de la population qui, là, est dans une situation où un patrimoine médian, mais souvent pas de liquidité. Et ça, c'est un antagonisme qu'on remarque très fortement. Des gens qui possèdent un patrimoine moyen, mais qui n'ont pas de liquidité. Bien sûr, à l'excès ou aux extrémités, on a des gens qui ont un très fort patrimoine. On va prendre l'exemple symbolique de l'appartement haussmannien acquis il y a 40 ans, qui ne valait peut-être pas grand-chose à ce moment-là, mais déjà un petit peu, et qui aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de la vie, vaut très très cher. Et bien, on constate qu'on a des retraités qui ont un très fort patrimoine là, mais qui n'ont absolument pas la liquidité, ne serait-ce que pour payer les taxes d'habitation ou les taxes foncières quand elles arrivent sur le marché. Donc, du patrimoine, avec du patrimoine immobilier, du patrimoine épargne livret et du patrimoine assurance vie. D'ailleurs, remarquons quelque chose extrêmement fort. On a tendance à dire que l'épargne est faite pour désépargner. C'est vrai, en période de vie, on épargne à une période pour désépargner plus tard. Mais on a sorti l'immobilier de ce raisonnement. Alors que normalement, l'immobilier devrait intégrer, comme l'immobilier fait partie du patrimoine, l'immobilier devrait intégrer ce raisonnement. L'immobilier pourrait être considéré comme « j'ai épargné pour l'immobilier pour désépargner demain ». Alors que ce n'est pas encore quelque chose qui est totalement évident pour une grande partie de la population. Alors, quand on regarde aussi les besoins, les ressources, la situation, les désirs, comme je l'ai indiqué, des retraités, eh bien, pour ceux qui ont de l'épargne, ben, il devient moins rentable et moins performant aujourd'hui. Et puis, dans les besoins et les désirs qu'ils ont, quelque chose qui est très très clair, c'est 80% des retraités souhaitent rester à domicile. On va même plus loin, 94% des retraités ou 6% des retraités ne veulent absolument pas bouger. C'est clair, on a passé un moment dans sa maison, on a passé un moment dans son appartement, on ne souhaite pas le quitter, quelle que soit la situation. Et la situation, quand on regarde, c'est plutôt faisons venir les services et les besoins à notre domicile plutôt que quittons le domicile. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Bien évidemment, ceci, ça impose que pour rester chez soi, il faut être financièrement autonome. Pour améliorer son logement en matière d'habitat, et je vois des spécialistes de l'habitat dans la salle, il faut effectivement avoir les moyens de payer son aménagement. Pour avoir des services à la personne, pour avoir un portage de repas, une garde malade, il faut aller voir les moyens de pouvoir le financer. Et la problématique qui se pose très souvent effectivement aux seniors, c'est comment j'arrive à retrouver de la trésorerie. Pour avoir pendant longtemps discuté, participé à des débats dans des caisses de retraite sur la gestion de la retraite, il faut bien constater qu'aujourd'hui, la retraite, qu'elle soit de base, de répartition ou même complémentaire, ne va pas augmenter. Or, les charges des retraités vont augmenter. Donc, leur écart en matière de besoin de trésorerie va croître. Si l'écart de trésorerie croît et leurs besoins croient en matière de trésorerie et pas les recettes, comment va-t-on financer ce qu'on aperçoit être de l'autre côté comme des besoins de financement à domicile? Alors, effectivement, quand on met des chiffres sur ces éléments-là, et les flèches que vous avez en bas de l'écran est significatif, si on a une retraite moyenne de l'ordre de 1200-1300 euros, et qu'on voit ce que peut coûter aussi bien l'assistance à domicile, l'assistance jour et nuit, et globalement les différentes situations de maison de retraite, on a un écart qui se creuse. Malheureusement, j'oserais dire, la tendance ne fait que s'empirer au fil des années. Cette situation de besoins financiers grandissant, alors que la situation de trésorerie n'évolue pas ou très peu, eh bien, elle se fait de plus en plus croissante, avec des facteurs économiques tels que l'on voit, effectivement, des facteurs démographiques aussi. Et quand on regarde les croquis, 16% des besoins vont vers la santé, 22% vers le logement, l'équipement, dont l'équipement de la maison, on est pratiquement à la moitié des ressources qui sont déjà utilisées. Je vais un petit peu vite volontairement sur cette présentation du marché pour pouvoir justement prendre le temps sur les solutions de demain. Dernier facteur qui est le facteur économique et macroéconomique majeur. Contrairement à ce qu'on pense souvent, effectivement, on ouvre beaucoup de maisons de retraite et de lits tous les ans, mais ramené à la population et au nombre de places pour 1000 personnes, dans les dernières années, ça a diminué. On est passé de 126 créations, effectivement, pour 1000 lits à 105 créations. Donc ça complète cette idée tout à l'heure que ce n'est pas la solution, n'est pas malheureusement dans les EHPAD. Alors, pour avoir longtemps réfléchi à la situation des retraités, des actifs pour préparer leur retraite, mais tout le monde réfléchit à la situation des actifs pour leur retraite. On a tous les jours, depuis des années, réfléchi de chacun faire un PERCO, un PERP et beaucoup de solutions. Vous, à votre âge, c'est tout à fait logique d'avoir ce type de réflexion. Seulement quand on est déjà retraité, qu'on perçoit déjà une retraite, qu'elle n'augmente pas et nos charges augmentent, quelles sont les solutions ? La seule chose que l'on connaissait en droit français aujourd'hui était le viager. Alors je ne suis pas un fervent partisan du viager, loin s'en faut, et je vais le dire pourquoi. Tout à l'heure, Madame le ministre disait qu'il fallait changer le nom. Je ne sais pas s'il faut changer le nom, parce que les personnes âgées le vivent plutôt bien. Ce qui est très très évident aujourd'hui, c'est que le viager tel qu'il était conçu de viager de gré à gré historique est quelque chose qui, en soi-même, a un certain nombre de contraintes. Le viager historique de gré à gré, qui offre beaucoup d'avantages, parce qu'il donne de la liquidité, il donne des rentes, vous le voyez ici, et on voit les besoins qui sont exprimés, des besoins de trésorerie, des absences d'héritiers, une gestion anticipée de la succession. Le viager est une réponse à tous ces éléments-là. Le viager qui consiste à dire « je reste à domicile et j'use du bien » où je jouis du bien en restant à domicile, et en échange de quoi, comme j'ai vendu la propriété de mon bien, j'en ai plus que la jouissance, j'obtiens de la liquidité et du cash, ce qui répond aux problématiques qu'on a vues précédemment, ça peut être une réponse. Et c'est une réponse. Je ne le conteste absolument pas. Mais cette réponse individuelle, elle pose en elle-même un certain nombre de problèmes. Certes, ça répond, là encore, dans la pyramide, à tous les besoins que vous pouvez voir. Ça peut effectivement apporter de la trésorerie immédiate. Ça peut faciliter la transmission du patrimoine. Ça peut financer les services à la personne et le maintien. Ça peut financer l'adaptation du logement. Ça peut financer, aider à financer aussi bien des enfants en situation de handicap, que ce soit du collatéral ou que ce soit des enfants. Ça peut commencer à préparer de l'argent pour demain en maison de retraite. Donc, quand on est en mesure de rester à domicile en vendant son bien, c'est une réponse. Alors pourquoi c'est une réponse qui malheureusement ne constate que quelques cas par an? Quand je dis quelques cas, c'est un micro-marché. Ben oui, c'est un micro-marché. On estime au maximum, il y a 5000 transactions viagères par an. Si on dit 5000 transactions sur 600 000 transactions immobilières, c'est moins de 1% du marché. Alors 5000 transactions, c'est peu. Pourquoi 5000 transactions seulement? Et encore, quand on dit 5000, il y en a un certain nombre qui sont des transactions de famille. C'est-à-dire que je fais un viager à un neveu pour en espérant diminuer les droits de succession demain. Mais des viagers directs à un tiers, il y en a certainement peut-être que la moitié, disons 3000 au mieux. Pourquoi? Ben effectivement, il y a effectivement beaucoup de vendeurs. Il y a beaucoup de retraités qui cherchent à vendre leurs biens et rester à domicile. Ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure. Obtenir de la trésorerie, rester chez soi, il n'y a pas de problème. En revanche, oui, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, mais il y a très très peu d'acheteurs. Pourquoi très peu d'acheteurs individuels? Je parle bien du viager individuel de gré à gré. Personne physique qui achète en viager. Pourquoi? Parce que vous prenez le risque viager tout seul. On va prendre l'exemple historique, bien sûr, de Madame Calment. Mais j'ai Madame Calment comme personne âgée. Je prends un risque de longévité, de surlongévité jusqu'à 120 ans. Je ne suis pas prêt à retrouver mes biens et je paye des rentes pendant 30, 40, 50 ans. C'est un faux exemple, Madame Calment, parce que le notaire qui lui avait acheté son bien, c'était un viager libre, il avait déjà le loyer en échange. Mais bon. Et il y a eu des grandes réussites en viager. Le général de Gaulle a acheté une propriété bien connue en viager. D'autres au gouvernement aujourd'hui ont acheté en viager. Donc ça peut être une vraie solution. Au-delà de ces anecdotes, le viager individuel, il faut effectivement que l'acheteur en viager, il ait, allez, on va dire 30 à 40 ans de moins que son vendeur. Pourquoi? Parce que quand lui, il va devenir en retraite à un moment, eh bien ses revenus vont diminuer. Et il faudra qu'il continue à payer la rente. Donc il y a un risque de paiement de l'acheteur qui est un risque inhérent au principe de longévité. Il faut aussi savoir que pour acheter en viager, on ne peut pas emprunter à la banque. Une banque ne prête pas en viager pour la simple et bonne raison que le bien est grevé d'une garantie pour la personne âgée qui est dedans. Donc si on n'honorait pas le paiement, le banquier ne pourrait pas récupérer le bien, donc on ne prête pas pour un viager. On peut prêter pour un autre bien en échange, mais pas pour un viager. Tous ces éléments s'ajoutent à la morbidité intrinsèque du viager individuel. Je veux venir habiter à la place de la personne à qui j'achète. C'est pas forcément sexy. J'attends tous les ans de savoir si elle est en vie ou pas en vie en lui envoyant une carte postale comme dans le film, mais c'était peut-être un petit peu gênant. Donc, ce côté morbide, qui fait aussi que j'espère qu'il vivra le moins longtemps possible parce que je paierai la rente le moins longtemps possible, donc moins cher possible, bah tout ça fait qu'au final, effectivement, il y a très peu de transactions. Ceci explique le croquis que vous avez là. Nous avons effectivement un nombre de viagers en vente sur le marché qui augmente, je dirais, qui est quasi exponentiel, alors qu'au contraire, un nombre d'acheteurs qui diminue énormément. Ceci est effectivement aussi complexifié largement par, je dirais, une profession qui est un petit peu difficile à s'organiser dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que le viager, c'est tout sauf de l'immobilier classique. C'est pas du coup de cœur. On achète pendant 20 ans. C'est pas un calcul immobilier de rendement immédiat. C'est un calcul actuariel sur l'espérance de vie. On ne s'improvise pas dans le viager comme on peut quelquefois s'installer comme une agence immobilière. J'oserais dire que s'il y a une technicité mathématique sur laquelle il vaut mieux savoir de quoi on parle, autrement on prend un risque. Et au final, quand on est dans cette situation où on achète un bien en viager, eh bien, on peut garder notre personne très très longtemps et on prend un risque majeur. Alors, où devient le risque, ou quand le risque devient-il limité ? J'ai rencontré, après une bonne trentaine d'années dans les caisses de retraite, des expériences dans le sujet. On m'a dit, si on en achète 3, 4 ou 5, il y en a bien une personne qui va décéder sur les 3, 4 ou 5. C'est complètement illusoire. La loi des grands nombres ne s'applique pas à 3, 4 ou 5. Si on veut être dans une mutualisation du risque, effectivement, il faut passer dans la loi des grands nombres. Mais la loi des grands nombres, ce n'est pas 5 viagers, c'est 150, 200, 300, 400, 500. Ça veut dire que pour mutualiser un risque viager aujourd'hui, il faut investir entre 20 et 100 millions d'euros pour couvrir entre 150 et 500 biens. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est un nouveau concept du viager. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans un acheteur individuel qui achète des biens individuels à une personne et qui prend un risque majeur. On est dans une mutualisation des ressources en gestion financière d'actifs qui achète énormément de biens pour lisser ses risques économiques et sa, disons, l'espérance de vie. Et ce qui fait que pour l'investisseur, la loi des grands nombres mutualise son risque. Pour le retraité, lui, il a affaire à un institutionnel qui lui garantit le paiement immédiat. Il n'a pas un acheteur individuel qui veut venir habiter à sa place. Il a un institutionnel qui achète pour revendre le jour où la personne âgée partira, quelle que soit la cause du départ, un décès ou un départ volontaire. Donc on est dans une situation du viager de gré à gré qui était morbide et interpersonnelle, à une situation sur laquelle on enlève la morbidité du sujet parce qu'on le dépersonnalise et on le rend dans la loi statistique des grands nombres. Alors, ça paraît assez peut-être surprenant ou satisfaisant, ou etc. Ce qui est clair, c'est que il faut la taille pour pouvoir le faire. La taille pour pouvoir le faire, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on fait à deux personnes, à trois personnes. Avec Christophe Mott qui m'accompagne, ou Charlotte Evangelidis, on structure aujourd'hui des véhicules d'investissement, c'est-à-dire à minima pour notre, je dirais, partenaire ou client le plus petit en termes de taille, 10 à 15 millions d'euros, pour acheter un certain nombre de biens pour mutualiser son risque. Et après, il fixe une politique d'investissement qu'il nous livre et sur lequel on achète des biens qui rentre dans le véhicule. Il est évident que plus le véhicule est important en termes de volume, plus la taille du fonds est importante, plus le risque de surlongévité est garanti, plus le principe mutualisé est garanti, moins l'investisseur a un risque. Et le retraité, de toute façon, lui, dès le départ, il a vendu son bien, mais il est payé. Oui, la dernière ligne est importante. Ce qui est associé au principe, c'est qu'effectivement, au lieu de payer un bouquet et une rente, ce qui fait une hypothèse impayée de rente, eh bien là, on paye 100% du bouquet immédiatement. Il n'y a plus aucun risque d'impayé. Pourquoi c'est possible ? Parce que la SCPI, la SICAV, la SAS, quel que soit le véhicule, c'est quoi ? C'est de la gestion d'actifs d'un institutionnel, d'une caisse de retraite, d'une compagnie d'assurance, d'une mutuelle. Elle a la trésorerie qu'un particulier ne pourrait pas avoir. Et s'il n'y a que ça qui permet de le faire. si ce n'était pas dans une situation où on est de la gestion d'actifs, de compagnies d'assurance ou de caisses de retraite, il est évident qu'on ne pourrait pas le faire. En schéma, je rappellerai juste, en schéma de calcul, le haut du tableau que vous avez, il concerne tout le monde. De manière générale, tout le monde devrait calculer, je dis devrait parce que malheureusement je constate que des agences immobilières ne le font pas comme ça, mais devrait calculer de la même manière une valeur de marché expertisée. Nous avons systématiquement, nous faisons expertiser tous les biens par l'Office national des notaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas de débat entre le vendeur et l'acheteur. Il y a un expert tiers qui est un groupement de notaires. On enlève de ce prix le droit d'usage, c'est-à-dire l'espérance de vie multiplié par une valeur locative, ceci actualisé, et ça donne le prix du bien occupé par la personne. Et c'est là où, normalement, tout le monde devrait faire la même chose. Et après, si c'est un acheteur individuel, ça s'appelle le gré à gré classique, il est habituellement réparti en 30% de bouquet et 70% de rente. Si c'est un viager mutualisé avec un institutionnel que nous représentons aujourd'hui, effectivement, eh bien, c'est un bouquet 100% dans une grande partie des cas, parce que la trésorerie nous est disponible et on permet de le faire. Et c'est vrai qu'on passe d'une situation d'un acheteur privé avec ce problème de morbidité à un acheteur qui est une institution publique ou privée. Un exemple chiffré est totalement parlant. On part de la même valeur de bien de 370 000 euros. Bah, si on a affaire à un institutionnel aujourd'hui, on peut espérer avoir 190 000 euros comptant. Alors certes, ce n'est pas 370 000. La différence, c'est l'espérance de vie de la valeur locative, c'est une sorte de loyer précompté. Si en revanche, vous avez affaire à un viager classique, bah vous aurez 60 000 euros en bouquet immédiat et le reste en rente, ou peut-être en rente, si vous survivez à la durée du contrat. Voilà pour nos métiers rapidement. Effectivement, cela impose d'être en mesure aujourd'hui, et ce sont notre métier, de structurer les fonds d'investissement, de faire la gestion d'actifs pendant la période, de trouver les biens auprès des retraités, notamment dans une démarche socialement responsable, parce que les fonds nous demandent aujourd'hui d'être dans une démarche socialement responsable. On est dans un contexte où on met en contact un institutionnel avec une personne âgée, donc potentiellement une personne dite vulnérable. Donc il est évident que la démarche doit être une démarche extrêmement verrouillée en termes de process, et c'est pour ça qu'on a labellisé tous nos fonds en ISR, ce qui nous impose d'avoir une démarche extrêmement contrainte. Et bien évidemment, il faut aussi gérer le bien pendant toute la durée de détention, c'est-à-dire entre l'acquisition et le départ de la personne du bien. À son départ et seulement à son départ, quelle que soit la cause du départ, le bien sera revendu. C'est à ce moment-là que l'investisseur fera sa plus-value, et seulement à ce moment-là. Mais il faut le gérer en bon père de famille, en gestion locative, tout à fait normalement. Ça, c'est un petit peu pour notre pub, on va y passer. Je vous remercie de votre attention et nous répondons à toutes vos questions.
Je vois bien. Je ne sais pas si c'est ça qui vous... Vous avez des questions ?
Bonjour. Je me posais la question, vous disiez, quelle que soit la cause du départ, donc la personne reste heureusement en vie, mais part dans le sud pour suivre ses enfants, j'en sais rien, voire à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe pour elle ?
Alors, on va d'abord exclure le décès, parce que par nature, le décès met fin au contrat et libère le bien, et l'institutionnel revend. Bien. Donc on est dans la situation où la personne a... Nous avons estimé au contrat, dans l'acte notarié, qu'on va décoter le bien, ce qu'on a vu tout à l'heure, on va décoter le bien d'une certaine valeur, compte tenu de l'usage qu'elle en a, en supposant que cette personne a 22 ans d'espérance de vie, et qu'au bout de 15 ans, la personne s'en va. Elle s'en va volontairement. Alors il y a plusieurs options dans ce schéma-là. On peut trouver un institutionnel qui vous dise « elle met fin volontairement, unilatéralement au contrat ». On avait prévu de la garder jusqu'à la fin de sa vie. C'est son choix. Elle s'en va, on revend, point à la ligne. Je pose l'extrême. On a un autre institutionnel qui nous dit, eh bien, elle s'en va, oui. Ben nous, ça va nous permettre de revendre plus vite. Donc, on va faire plus vite notre plus-value de revente. Donc, on va peut-être essayer de voir si on ne lui redonne pas une partie de l'usage qu'elle n'a pas utilisé. Je m'explique. On avait retenu 22 ans d'espérance de vie à une valeur locative. Elle repart au bout de 15 ans. Elle a donc non utilisé 7 ans d'espérance de vie. On dit ces 7 ans, on les valorise et on lui redonne comme un capital complémentaire.
La question avait trait à l'aspect contractuel.
Alors, c'est un complément. Alors, première chose, effectivement, merci que je n'ai pas précisé. On n'est pas dans un viager parce qu'on n'est pas dans du bouquet plus rente, vous avez vu. Donc on est un bouquet, 100% bouquet. Donc on est dans une vente au comptant avec réserve de droit d'usage au niveau juridique. Vente au comptant avec réserve de droit d'usage, on est dans un élément où on verse un capital dans un premier temps qui est soumis au droit notarié tout à fait classiquement. Et si la personne part par anticipation, on va lui verser un complément, donc un capital complémentaire, qui est une autre modalité de paiement, une deuxième partie du paiement, qui est elle aussi soumise à droit d'enregistrement à partir du moment où elle abandonne son droit d'usage. Donc on est dans un deuxième versement qui peut être effectivement, dans l'exemple que je viens de citer, 15 ans après, sur lequel elle a un capital complémentaire qui est présenté d'ailleurs devant le notaire parce qu'elle abandonne son droit d'usage.
Quelle que soit la cause. Eric, pour finir, pour répondre un tout petit peu plus précisément, en fait, chaque institution que nous on voit ne répond pas de la même façon. Donc ça veut dire que c'est bien annexé à l'acte. Quand on signe l'acte en vente de viager, avec droit d'usage et d'habitation, il signe avec un tableau où il dit, voilà, si je pars dans 15 ans, voilà ce que j'aurai en capital complémentaire. Et selon les institutions, on n'a pas les mêmes pourcentages. C'est pour ça qu'il ne répond pas de façon plus précise. C'est que chacun n'a pas pris la même option. Il y a des gens qui vont rembourser au départ. On a eu Corem Imo qui a fait le premier fonds rembourser 100% du capital restant dû. Finalement, il s'avère que des gens s'en sont un peu servis et qu'on est revenu à un autre pourcentage. D'autres ne versent zéro. Et en fonction de leur politique d'investissement, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on vous donne pas de réponse. Mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un va vendre, il connaîtra pour lui ce qui se passera à l'acte. Dès qu'il vend, il sait déjà ce qu'il aura après.
La stratégie de l'investisseur n'est pas neutre. Il est évident que si vous avez affaire à une SICAV qui compile de la gestion financière, de conseillers en gestion de patrimoine qui viennent incrémenter l'enveloppe, ou si vous avez affaire à de l'action sociale, une institution qui vise en premier le maintien à domicile de ces personnes âgées, il est évident que ces problématiques de performance-rendement n'étant pas les mêmes, a fortiori, ce qui revient vers le sociétaire ou l'adhérent n'est pas la même chose. Oui, monsieur.
Bonjour, Mohamed Melki, consultant expert du bien vieillir. Moi, je me pose la question du point de vue de la personne âgée, dont l'idéal, c'est, même quand le revenu de retraite ou d'autres sources de revenus ne suffisent pas pour pouvoir financer des services dont j'ai besoin parce que je suis âgé, je suis fragile ou je suis en perte d'autonomie, avec une préférence à vivre, continuer à vivre chez moi, dans mon logement que j'ai acquis depuis longtemps, etc. Dans l'idéal, ce serait à la limite que ma maison, que je puisse la manger en petits morceaux tous les jours. Et je fais avec ce que je veux. Le problème, c'est que c'est pas comme ça. Mmh. Et c'est là que vous intervenez pour rendre possible de monétiser, liquifier le patrimoine. Ce qui me chagrine, ce qui me chiffonne, je vois très très bien, c'est vraiment très intelligent ce que vous avez fait. C'est déjà mieux que le viager de gré à gré, et c'est mieux que le prêt hypothécaire, viager hypothécaire. Mais il n'empêche que, voilà, j'ai 75 ans, 78 ans, je commence à faiblir, j'ai plus assez d'argent pour payer mes services à domicile, etc., etc. Et donc je vais vous vendre mon appartement, vous me donnez le capital 100%, c'est une grosse somme d'argent, 100%. Donc qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux partir dans les Caraïbes, louer des danseurs pendant plusieurs mois, et puis il m'arrive un pépin.
J'ai plus rien.
Et qu'est-ce que je fais? Là, je tire sur le trait, mais vraiment caricaturalement. Heureusement que les seniors ne font pas ça. Mais il n'empêche que ce capital que j'ai acquis au moment où je vends mon appartement, j'ai juste le droit d'usage de mon appartement, mais par contre, dans la gestion de cet argent, qu'est-ce que je fais avec qui puisse me garantir que quand je suis en difficulté parce que ma santé s'est aggravée, parce que ma dépendance s'est aggravée, parce que j'ai besoin d'un certain nombre de services, est-ce que j'aurai une solution financière pour faire ça?
D'accord. Alors, le risque, je vais d'abord vous dire, le risque zéro n'existe pas, mais la pertinence de votre question nous a été quelquefois amenée par des institutionnels qui disaient, en payant 100% cash, en bouquet immédiatement, je prends le risque de payer à une personne vulnérable qui demain, ne maîtrisant pas sa consommation personnelle, je la mettrai dans la rue indirectement demain, et en termes de risque d'image et de notoriété, je ne voulais pas prendre ce risque-là. Je comprends parfaitement ce souci, et d'ailleurs nous l'avons eu par des institutionnels. C'est la raison pour laquelle il y a deux choses. Il y a un, je dis le risque zéro n'existe pas, c'est on essaie seulement de mettre des process pour limiter ces cas-là. Quand il y a manifestement un risque de vulnérabilité fort qui se voit et qui se détermine à la personne. La personne très âgée qui vient toute seule, sur lequel on voit bien qu'il y a une situation très grave, ou qu'il vient quelquefois accompagné par une personne dont on voit qu'il n'est ni de la famille ni rien et qui a un intérêt fort d'aller tout de suite à la banque récupérer la somme, il y a des risques. Et à ce moment-là, il faut proposer la rente. Dans notre partie à droite, on est à 100% booké. Mais on ne s'interdit pas de faire un bouquet plus rente, parce qu'il y a des situations sociales qui seraient dangereuses de faire du 100% bouquet. Et dans le démarche ISR, on s'interdit ce genre de choses et on prend le risque d'une dégradation de notre notation si on ne le faisait pas. Parce qu'il y a des gens qui, naturellement, effectivement, seront peut-être pas capables de gérer ne serait-ce que 80 000 euros tout de suite, qui vont les dépenser en 2 ans et au bout d'un moment, ils n'auront rien. Donc là, il faut impérativement, pratiquement, avec leur notaire, imposer une rente. Mais c'est la seule réponse que l'on a. Bah. Mais dans la démarche, il faut se l'imposer. Ah. Oui, bah, la tutelle, mais en tant que tiers, nous n'avons pas vocation à intervenir sur la mise en tutelle. On peut alerter. On alerte. Par exemple, le fonds COREM, qui est le fonds de l'éducation nationale avec GEN, très clairement nous a demandé une alerte s'il y avait des situations sociales et on prévient les correspondants sociaux de la MGEN. Mademoiselle ?
Non, c'est le monsieur qui a le...
Monsieur. Oui, pardon, il y a un monsieur. Allez-y, monsieur. Allez-y.
Bonjour.
Vous avez dit tout à l'heure que les contrats viagers sont en régression. Mais, donc, moi, personnellement, j'ai été contacté par René Coste Viager pour mes parents. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez et quelles sont les conditions dans lesquelles, vraiment, ces contrats se font.
Je n'en pense rien.
C'est faux.
C'est un autre métier. Je peux pas. Il y a un monde du viager traditionnel qui tarifie avec des méthodes et des logiques. D'abord, quand un viagériste classique, on va enlever les noms, fait une tarification, normalement, il devrait faire la partie haute là-haut. Seulement, il y a des aléas qui sont l'espérance de vie qu'on retient. Est-ce qu'on retient 14 ans ou 17 ans sur la même période? Quelle table de mortalité on prend? On prend la table INSEE, la table d'Aubry, la TGF 2005, la table d'une CICAD. On prend quoi? On prend quoi comme valeur locative? On prend 2,5 parce qu'on est à Paris ou on prend 5 parce qu'on est à Biarritz? Tous ces éléments-là, ils rentrent en jeu. Donc la décote ne va pas être la même. Donc on est capable de vous expliquer que le tarif, il ne va pas de 1 à 3, mais il est quand même au moins 30% d'écart. Ensuite, un viagériste traditionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre mandat pour votre maman et il va aller chercher un acheteur qu'il n'a pas. Et cet acheteur, il va lui dire, eh bien, j'ai le bien de madame votre mère à vendre à un prix de... Allez, la maison vaut 300, je l'ai à 170, vous donnez 50 tout de suite, le reste en rente. Compte tenu de l'espérance de vie, j'ai en plus vu qu'elle n'était pas en forme, elle ne va pas vivre longtemps, je vous en ramène 2 couches et je prends le mandat. Sauf qu'une fois qu'on a le mandat, on n'a pas forcément l'acheteur. Et là, il va se passer 18 mois le temps qu'on vienne voir qu'on ait l'acheteur. Et on va revenir vous voir et on va vous dire à ce moment-là, ah ben, j'ai pas d'acheteur, il faut baisser votre prix. On ne baissera pas pour autant la com d'agence, mais on va baisser votre prix. Mais c'est un autre métier. C'est un métier, je dirais, qui s'apparente plus à ce qu'on connaît dans l'immobilier classique. Voilà, j'ai pas de jugement. On est parti sur de l'institutionnel avec du principe. J'aurais le regret, en revanche, si vous me proposez quelque chose pour votre maman, on veut dire qu'avec nous, malheureusement, il n'y a rien qui est discutable. Parce que par principe, quand vous êtes dans des bases mathématiques qui rentrent dans des process, ça ne se discute plus. Il y a un monde de la transaction immobilière, il y a un monde du viager mutualisé, c'est 2 mondes à part.
Excusez-moi, j'insiste.
Oui.
Vous avez répondu en partie à ma question seulement, mais je reviens à la charge, mais un petit peu différemment. Le viager gré à gré, je dirais essentiellement, en tout cas historique, hein, c'était fait pour, on est encore relativement jeune, bien valide, mais on est plus ou moins fauché, puis on a envie de consommer pas mal de choses, etc. Et donc, voilà, on mange le patrimoine pour le faire. Quand on regarde aujourd'hui le comportement des Français, notamment les seniors, un taux d'épargne assez fort, 26%. Taux d'épargne, 26%.
Ouais.
Assurance vie, des actions, livret A, LBD, etc., etc. Plus les retraites, ça, les deux, ces deux choses-là, leur permettent, le revenu de retraite et donc l'épargne, leur permettent de vivre, je dirais, ce que j'appelle moi le bien vieillir. Je suis senior, je suis jeune, je vis en couple, je suis en bonne santé, je sors, j'ai mes petits-enfants, peut-être une résidence secondaire, etc. Et je peux me permettre de bien vivre parce que c'est quand même la meilleure partie, enfin, en tout cas la dernière meilleure partie de ma vie. Et on voit bien que statistiquement, les Français âgés, ils réservent le patrimoine immobilier vraiment à la grande vieillesse, à la dépendance. Soit à domicile, quand c'est encore possible, et le plus souvent pour financer l'entrée en maison de retraite. Maison de retraite, en moyen, c'est 2 ans et demi aujourd'hui, mais comme vous l'avez dit, hein, ça coûte plus ou moins cher, selon le lieu de résidence. J'ai l'impression que votre formule, c'est encore une formule du viager traditionnelle qui s'adresse à des gens plus jeunes, même si vous avez fait référence à des personnes très âgées qui n'ont même pas les moyens, au moment de la signature, de gérer. Moi, je parle vraiment à des gens qui sont ni des jeunes retraités, ni des personnes dépendantes. Ils sont dans un âge de transition, 78, 80 ans. Ils ont 3 bobos chroniques, mais ils sont chez eux, ils sont plus ou moins autonomes. Voire même, ils sont déjà gérés 6, 5.
Ouais.
Peut-être même 4 à la limite. 4. Là, 4, vous savez qu'on peut mourir avec un GIR 4. Pas forcément, je veux dire, on n'a pas tous la chance de mourir grand dépendant. Il faut savoir, on va mourir avant. Mais ces gens-là, quand même, quand on est GIR 6, 5, 4, je dirais, l'intérêt de mobiliser le patrimoine en soutien à ma vieillesse, c'est qu'il puisse répondre à mes besoins dans mon parcours de vie. Dès qu'il y a quelque chose, une situation nouvelle qui apparaît, il faut que mon patrimoine puisse me soutenir. Et moi, je vois l'entrée en maison de retraite, par exemple, un viager qui permet à la personne de pouvoir financer des services à domicile, y rester le plus longtemps possible, y compris à financer des adaptations du logement quand c'est intéressant de le faire, quand le logement est bien situé, quand il est proche des commerces, etc. Enfin, je vous raconte pas l'histoire. Mais par contre, pour moi, le viager, il doit permettre à la personne d'entrer en maison de retraite quand c'est nécessaire et financer les services.
Alors, c'est là où nous avons... J'ai pris la peine tout à l'heure de préciser les périodes en vous disant ce qu'on constate aujourd'hui. Nous gérons actuellement de l'ordre de... sur différents institutionnels, des fonds assez conséquents. Donc on a eu la chance de rencontrer un certain nombre de retraités et de faire un certain nombre de transactions dans les années précédentes, notamment dans l'année précédente. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement des jeunes retraités, je dirais la phase post-retraite, sur lequel là, on désépargne ce qu'on avait mis de côté. On a, et ce dont vous parlez, des gens qui rentrent en maison de retraite, et quand vous entrez en maison de retraite, mais il est trop tard pour faire votre viager. Pourquoi ? Parce que le principe même du viager, c'est de décoter votre usage. Or, vous n'avez plus besoin d'usage. Il faut carrément vendre votre bien. Et effectivement, si vous l'avez mis en viager, il a déjà été vendu, vous ne pouvez pas le revendre une deuxième fois. Ça, malheureusement, ça ne peut pas se produire. Oui ?
Oui, mais c'est une condition dès le départ. Tu ne peux pas... Ouais.
Mais c'est à mon avis la raison pour laquelle je crois qu'il y a 2 approches de la trésorerie nécessaire à l'entrée en maison de retraite. C'est ou la trésorerie de rente viagère complémentaire que vous avez pris très en amont, mais je ne suis pas convaincu que pour passer de 1256 euros que vous avez là de retraite moyenne à un EHPAD, je ne suis pas sûr que c'est une RVI, une rente viagère individuelle qui vous le permette. Alors que si vous avez eu un capital important que vous savez le gérer en une partie de rente viagère et une partie d'épargne, là vous pouvez vous le financer.
La plupart aujourd'hui de nos crédits rentiers à qui on a acheté des biens ont quasiment, allez, 1 sur 3 ont remis le capital en rente viagère après. Mais parce qu'ils ont eu un capital fort et que du coup, vu leur âge, ils arrivent à avoir des rentes complémentaires qui ont un vrai sens. Alors qu'ils commencent à cotiser dessus, c'est pas possible.
Et chaque situation est très particulière. Vous avez des gens qui ont une espérance de vie très longue, donc une décote très forte, on dirait que ce n'est pas important, mais ils partent d'un bien qui vaut 1 million d'euros. Ben, il va encore leur rester 400 ou 500 000 euros en cash, sur lequel ils n'ont jamais eu ça de leur partie de vie, sur lequel ils vont faire des donations par anticipation aux neveux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en termes de transmission de patrimoine, aider les petits-enfants, si c'est des petits-enfants, en garder en capital après avoir changé la Citroën C4 Picasso. Vous en priez. C'est bon, j'aurais des questions.
Bonjour. Petite question pour prêcher sur ma paroisse. Je suis gérant d'entreprise, d'un réseau d'entreprises qui adapte les logements pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et dans le cadre de cette adaptation de logement, est-ce qu'on rentre dans le cadre du viager classique où la modification du logement est possible? Dans le cadre, on va le dénaturer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va aménager la salle de bain, on va peut-être obligé d'abattre une cloison, on va peut-être être obligé de mettre un monte-escalier, on va peut-être être obligé de mettre une rampe extérieure en béton. Ma question, elle est, est-ce possible? Faut-il demander l'autorisation, puisqu'on n'est plus propriétaire du bien, hein, on est usufruitier, on est, voilà. Et est-ce que c'est possible? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que la décote ou la surcote de la valeur locative avec les années qui avancent, est-ce que ça aussi c'est pris en considération dans le bouquet avec la rente si le coût de la location augmente du double, est-ce que cette rente va bouger elle aussi avec le temps ou pas?
Je vais laisser Charlotte.
Oui, alors il y a deux questions du coup dans ce que vous nous avez dit. Il y a pour répondre assez rapidement, de toute façon légalement la rente, quand on fait du bouquet rente, est réactualisée. Donc ça c'est de fait. D'accord. Donc oui, ça évoluera en fonction des années. En revanche, pour tout ce qui est adaptation des travaux ou matière domicile, c'est un peu c'est même le but aujourd'hui recherché avec cette solution. Donc oui, les crédits rentiers qui veulent aujourd'hui aménager pour vivre le plus longtemps possible et le mieux possible chez eux à domicile, auront des aménagements à faire. Donc oui, ils ne sont plus propriétaires. Oui, ils sont usagers de leurs biens et ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation pour faire les travaux.
Le véhicule qui achète les biens, il est tenu légalement de procéder à des travaux qui touchent la viabilité du bien immobilier. C'est l'article 606 du Code civil. Après, le crédit rentier peut décider de faire ce qu'il veut dans le bien, c'est lui qui décide. Mais nous, on n'est pas tenu, engagé en tout cas, de faire ces travaux. Après, ça peut dépendre aussi de la stratégie des différents investisseurs. Voilà, qui peuvent, ce qu'on en parlait tout à l'heure, imposer des travaux à l'entrée de 10-15% de la valeur du bien pour participer à la rénovation peut-être thermique du parc immobilier français.
Très clairement, un institutionnel aujourd'hui, on a un certain nombre de caisses de retraite, compagnies d'assurance qui nous ont confié des sommes allant de 20 millions à 100 millions d'euros pour gérer des fonds. On travaille aujourd'hui avec un institutionnel qui, dans ce cadre-là, sur un gros fonds de 100 millions d'euros, c'est-à-dire pour mutualiser 500 biens, demande impérativement, dans la démarche ISR, dans le développement durable, parce que c'est un choix stratégique d'investissement de gestion d'actifs, il demande qu'il y ait entre 10 à 12% de travaux réalisés à l'entrée dans le bien. C'est un choix politique. Là, après, nous, en tant qu'intervenants, on va lui tarifer son rendement financier et on va chercher des biens qui correspondent à cette exigence. Monsieur ?
On va prendre peut-être la dernière question. Après, je vous invite à nous retrouver éventuellement sur le stand si vous voulez qu'on débatte un peu plus longtemps, parce qu'on va devoir libérer la salle. Voilà,
c'est ça. On prend la question de monsieur et après, on poursuit pour ceux qui veulent. Quels sont les institutionnels qui achètent? Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, il y en a certains qui sont dans le domaine public, donc je peux vous les citer. C'est Corem, qui est la caisse de retraite de l'UMR, c'est-à-dire l'éducation nationale. C'est aujourd'hui quelques SICAV d'investisseurs. Et puis après, dans le tuyau, où je ne suis pas autorisé à vous donner les noms, mais la presse va s'en charger dans quelques jours ou quelques semaines, il y a d'autres institutionnels. Il y en a un qui a annoncé, c'est la Caisse de dépôt, je n'en parle pas, ils sont dans une démarche d'aujourd'hui qu'ils ont annoncé la création d'un fonds. Ils sont dans une démarche de sélection des opérateurs, donc ce n'est pas complètement abouti. Mais même sans parler de celui-ci, il y en a d'autres dans des volumes identiques aujourd'hui. C'est quelque chose de très 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 actuel aujourd'hui. En un mot, nous pensons être dans une stratégie de doublement, voire triplement des levées de fonds l'année prochaine sur ce sujet.
Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, merci.
C'est gentil.